mama suffer and no mamas die. People so strong they keep their head up high, high, sky high. No lie, long term if you wanna swim deep. Short term, don't ignore the real thing. Long term if you wanna swim deep. Short term, don't ignore the real thing. Long term if you wanna swim.
On est à deux doigts de monter les barricades devant les portes de la radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le pire reste à venir, la matinale, des antennes des radios HDR et Principe Actif. Ce matin, comme je le disais, on va monter les barricades. Alors, je ne sais pas si on va vraiment monter les barricades ou au contraire ouvrir grand les portes pour vous accueillir. Ce sera selon vous, en fait, finalement. Car ce matin, nous allons parler de la zone d'occupation féministe qui se déroulera ce dimanche 8 mars à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes. Et pas contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs, à des endroits. On a vu encore cette année la journée de la femme. Voilà, tout simplement. On aura l'occasion d'y revenir, bien entendu, parce que c'est pas trop ça qu'on défend ici. On aura l'occasion de retrouver de la bonne humeur, bien entendu, de la bonne musique, c'est obligatoire, des bons plans, je sais pas, et puis aussi de retrouver nos chroniqueurs de choc, à savoir l'ami So et notre ami Antoine 2.0. Vous l'aurez compris, on est parti pour une heure ensemble. Attachez vos ceintures, détendez-vous, tout va bien, vous êtes sur Principe Actif et HDR.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
HDR.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute, 99.1
HDR.
102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Exactement, vous êtes au bon endroit. Ce matin, je le disais, nous allons parler de la journée internationale du droit des femmes à l'occasion du 8 mars, où se tiendra à Évreux et dans plein d'autres endroits, bien entendu, des manifestations, des événements, et notamment nous, sur la place, devant la médiathèque, devant le Théâtre des Arts, devant la mairie, une zone d'occupation féministe, mais ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous avons So avec nous. So, c'est un sujet, quand je te l'ai dit, t'as dit super, je vais pas relire nos échanges par SMS, mais c'était ça l'idée.
Hein. Bah oui, quand tu m'as dit que voilà, t'avais transformé l'idée avec la présence aujourd'hui de nous toutes 27, j'étais à fond.
Bah voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous avons effectivement Marine de Nous Toutes 27 avec nous. Bonjour Marine.
Bonjour.
Et Didier de l'antenne locale d'Amnesty International. Bonjour Didier.
Bonjour à tout le monde. Bonjour aux auditeurs de Principe Actif.
Pour commencer cette matinale, j'aimerais bien qu'on définisse un petit peu qui êtes-vous, mesdames, messieurs. Nous Toutes 27, qu'est-ce que ce collectif? Et puis Amnesty International, ça vaut quand même le coup de revenir dessus. Même si on commence à vous bien vous connaître sur Principe Actif.
Oui, c'est vrai, ça fait quelques années qu'on est sur l'antenne, quelques années.
Voilà, Nous Toutes 27, allez Marine, on commence par toi. Nous Toutes 27, qu'est-ce donc et comment ça va en fait? Parce qu'on va se le dire, t'es arrivé dans les escaliers au moment du générique. Comment ça va Marine? On va prendre des nouvelles déjà.
Eh bien, très contente d'être arrivée surtout pour prendre la parole et puis pour vous rencontrer tous, sincèrement. C'est une très belle opportunité de parler de l'événement de dimanche. Du coup, Nous Toutes 27, pour me présenter, donc je suis Marine, je fais partie du collectif Nous Toutes 27, qui est une branche locale en fait de Nous Toutes, qui est pour le coup internationale et qui est même maintenant un petit peu dans d'autres pays. Et donc en fait la branche de l'heure, elle dénonce principalement des violences sexistes et sexuelles, donc systémique, c'est-à-dire sur les femmes, sur les enfants, sur les minorités de genre, etc. On donne aussi beaucoup la parole aux personnes du coup victimes. On essaie le plus possible de donner la parole aux concernés. Évidemment, on fait jamais ça tout seul, c'est-à-dire qu'on est déjà assez nombreuses dans le collectif, mais on a plein de copains et copines, notamment qui nous aident bien pour la journée de dimanche, à organiser en fait ce qu'on va appeler une occupation féministe, donc occuper la place, prendre de la place, prendre la parole, donc de plein de manières différentes, et ça on en parlera un petit peu plus tout à l'heure sûrement.
Tout à fait, bah, on a une heure devant nous pour aborder toutes ces questions. Didier Rio, Amnesty International, l'antenne locale hébroïcienne, quoi-ce donc ?
C'est un groupe qui fait partie d'Amnesty International France, effectivement, et qui existe depuis pas mal de temps aussi à Évreux, je crois que c'est depuis les années 84-85, quelque chose comme ça, et qui organise différentes actions, mobilisations, en interne ou en externe, par rapport à la défense des droits humains. Un vaste, vaste programme, effectivement. Et une petite précision, bien évidemment, notre groupe est entièrement, comme tous les groupes d'Amnesty à travers la France, il y a à peu près 400 structures locales d'Amnesty à travers la France, qui est beaucoup, mais ce sont uniquement des gens qui sont entièrement bénévoles, bien évidemment.
Connexion, nous toutes 27 et Amnesty, ça s'est fait comment ?
Ça se fait
parce que vous êtes connectés, hein, notamment sur ce week-end.
Bah, si je peux me permettre de répondre en premier. Ça se fait. On est en contact avec beaucoup d'associations et d'organismes locaux qui s'occupent à titre divers de défense des droits humains fondamentaux. Et donc, à ce titre-là, on a déjà rencontré nous toutes 27. On était présents l'année dernière, c'était à la salle Jules Janin, si j'ai bonne mémoire, à une journée qui était aussi organisée par nous toutes 27, où on a été présents, on a tenu un stand d'information, enfin, etc. Et quand on a appris en début d'année, si j'ai bonne mémoire, que nous toutes 27 se lançaient dans cette journée du 8 mars, on les a contactés aussitôt en leur disant, ben nous aussi, si on peut être présents, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Donc voilà comment les choses se font. Bien évidemment, c'est des contacts en tout le milieu associatif, ce n'est pas du tout exclusif par rapport à nous toutes 27, mais là on est très content effectivement d'être présent le 8 mars.
Et puis pour nous toutes 27, j'imagine que voilà, être connecté à d'autres structures de défense de droits humains de manière générale, mais de droits des femmes de manière plus spécifique, j'imagine que ça vous parle.
Exactement, bah, c'est une base super importante en fait du militantisme, hein, de toute façon de créer du réseau. Dès l'instant où on se lie à d'autres sur les mêmes valeurs, c'est que ça fonctionne, hein, c'est que tout va bien. Et donc évidemment, on a plein d'autres partenaires comme ça, et surtout bah, des fidèles sur des journées très importantes comme celle-là.
Sceaux passe son temps à nous dire le militantisme doit être intersectionnel. Ça fait partie des choses essentielles pour pouvoir mener des combats collectifs.
Exactement.
On ne peut pas rester seul dans son coin. On a besoin de faire sens en groupe pour emmener les questions un peu plus loin aussi.
Très bien, vous avez compris comment ça va se dérouler dans cette émission. Je vous propose de commencer avec un tout premier morceau de musique. Moi, je l'aime bien, c'est Sarabès.
Going up in flames, but I lit the fire. Got no one else to blame, 'cause I ain't a good liar. I'm a professional at digging holes that I can't crawl out of, so enjoy the show. Going up in flames, but I lit the fire.
Sarah Bess.
Up in flames, but I lit the fire.
Pas fini.
Yeah, I lit the fire.
Je sens quand même dire comportement typiquement masculin, tu l'as pas laissé finir, je voyais Marine monter au créneau directement.
Ah, j'ai agrippé le micro direct.
Ah oui, direct, j'ai pas laissé finir Sarah Bess. Il paraît que c'est une maladie masculine. Bon, on verra comment on s'en sort
ça
avec tout
ça. Ça se soigne plutôt bien.
Ça se soigne bien.
On se rassure, ouais.
Bon, bah très bien. Alors, Sarah Bess, en tout cas, c'était avec le titre, ça y est, j'ai pas mis mes lunettes, I Lit the Fire. Ça aussi, c'est un problème qui soigne bien, le fait de mettre ses lunettes.
Ouais. Salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Mets-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like a mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Oui, bonjour. Je voudrais passer une annonce pour notre festival de théâtre amateur qui a lieu du 27 au 29 mars à Passy-sur-Eure. Si vous pouvez me rappeler au 06 67 85 11 50.
Eh ben, on rappellera bien entendu pour ce festival de théâtre amateur avec le plus grand des plaisirs. Je le disais, ce matin, nous sommes avec deux structures, Amnesty International et nous toutes 27, et plus précisément avec Didier et Marine, pour parler de la zone d'occupation féministe qui aura lieu ce 8 mars. Mais au-delà de la zone d'occupation féministe, c'est aussi l'occasion de revenir sur le droit des femmes de manière plus générale, et puis sur les questions aussi du féminisme. Ça tombe bien, ça fait partie des sujets que nous aimons porter à Principe Actif. Moi, je voulais déjà, pour commencer, revenir sur la première question. Quand on parle de la journée internationale du droit des femmes, j'ai envie de faire un point où on en est sur ces questions de droit des femmes de manière internationale. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? Comment est-ce que ça se passe, cette question du droit des femmes? Et quelles sont les zones de combat plus spécifique. Ouais, je vois, j'ai pas commencé par une question simple, enfin facile, mais rappelez-vous, quand vous êtes arrivé, je vous ai demandé si ça allait. Celle-là, elle était facile.
C'est vrai, tout à fait.
Où on en est sur ces questions du droit des femmes?
Je commence, ça te va?
Oui, bien sûr, non, mais bien sûr. C'est nous toutes qui est maître d'œuvre, hein, donc priorité à nous toutes.
Bah, écoute, je dirais que franchement, oui, on avance, évidemment, Dieu merci. Dans beaucoup de pays du monde, quand même, on avance globalement. Mais en fait, évidemment, comme on répète tout le temps, il n'y a aucun droit qui est complètement acquis, on en a bien conscience. Et puis, entre le droit et l'accès au droit, c'est encore deux choses différentes. Les politiques régionales, et global, de toute façon, malgré les lois, ben, il y a encore des choses qui sont vraiment pas bien mises en place, comme le droit à l'IVG, comme ce genre de choses, en fait, qu'on considère encore comme une victoire. On se considère comme un pays pionnier, mais c'est pas vraiment le cas. Quand on regarde vraiment l'accès dans la pratique, c'est pas le cas.
Et puis ça fait partie des droits, notamment sur l'IVG, on l'a vu il y a quelques temps, notamment en Espagne, où il était clairement remis en cause.
Ah, complètement. Complètement. Il est toujours remis en cause, et même si nous, par exemple, là, il a été gravé dans la Constitution, l'accès, en fait, n'est toujours pas aussi facile. C'est-à-dire qu'un droit ne n'assure pas l'accès sur tous les territoires. Et donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis après, ensuite, il y a plein de droits et de légitimité à acquérir. C'est-à-dire que la représentation des femmes, de leur parole aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose de très valorisé, de globalement mis en avant, exactement comme toutes les minorités de genre d'ailleurs. Les femmes sont une communauté minorisée. Après, il y a encore les minorités qui sont encore autre chose et qui, franchement, peinent encore à se faire entendre. On le voit d'ailleurs, hein, dans les séries, dans tout ce qui est très populaire encore, qu'on rame beaucoup. Et de toute façon, en fait, l'occupation porte très bien son nom. C'est-à-dire que là, vraiment, le but, c'est de se faire voir, de se faire entendre et de se sentir en sécurité sur un lieu, ce qui n'est déjà pas encore le cas dans la vie de tous les jours.
Quand tu l'évoquais, la représentation des femmes, bien souvent, elle est sexualisée aussi, cette représentation. On le voit, tu évoquais des séries, les films et compagnie. Je voyais, il y a encore peu de temps, une actrice de 60 ans qui disait, eh ben, c'est de moins en moins évident quand on commence à vieillir, parce qu'on représente pas l'image souhaitée.
Ah bah, complètement. Et ça, dans tous les aspects des femmes. C'est-à-dire qu'on soit dans la rue, qu'on soit au travail, qu'on devienne mère ou qu'on ne veuille pas le devenir. Enfin, peu importe, on est tout le temps en fait mise comme ça sous un microscope de pourquoi elle a fait ce choix, comment et pourquoi pas l'autre. En fait, la société se permet en permanence de questionner comme ça notre apparence, nos choix, notre parole en permanence. C'est quand même quelque chose dont il faut prendre conscience, même s'il y a des petites choses qui se mettent en place à la télé. Récemment, il y a eu une petite émission qui a fait parler là-dessus sur le sexisme, là. Certainement pour la journée qui vient, mais en fait, quand on est renseigné sur le sujet, on a vraiment l'impression qu'on enfonce encore un peu des portes ouvertes, quoi. Donc c'est très frustrant.
Didier, Amnesty International, sur cette question du droit des femmes et de manière internationale, parce que c'est aussi votre angle d'attaque chez Amnesty.
Oui, tout à fait. On est organisation mondiale, hein, donc on agit au niveau du monde entier, ce qui est présomptueux peut-être, mais ce qui est une réalité aussi. Pour Amnesty International, les droits des femmes, c'est... Enfin, comment dire simplement, c'est une question qu'on ne devrait pas se poser. C'est-à-dire que les droits des femmes, ce sont des droits humains. Enfin, je veux dire, une femme est un être humain. Et nous, on est effectivement organisation pour défense des droits humains. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a supprimé, dans notre façon de parler, la notion de déclaration universelle des droits de l'homme, même si l'homme était conçu comme étant le genre humain. Mais nous, on parle de droits humains, pour éviter toute polémique par rapport à ça. Et donc, bien évidemment, qu'une femme est un être humain. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident. Et c'est tout à fait incompréhensible qu'on soit en 2026, si je ne me trompe pas, à encore se poser des questions sur comment est-ce que les femmes, aussi bien en France qu'à l'étranger, puissent acquérir les mêmes droits que les hommes. C'est parce que ce sont des êtres humains. Enfin, je veux dire, nous, ça nous paraît tellement, comment dire, sur le fond, la question nous paraît tellement incompréhensible, si je puis dire. Donc voilà. Après, bien évidemment que, on sait très bien que l'égalité entre hommes et femmes, au niveau historique et au niveau actuel, c'est encore quelque chose qui est à conquérir. Ça, on est tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'on sera présent dimanche. C'est pour ça qu'on agit toute l'année. Nous, on dit aussi que le 8 mars, c'est la journée internationale pour les droits des femmes, et non pas, comme tu disais, j'y sais, la journée de la femme, ce qui ne veut rien dire. Et que pour nous, la journée des droits des femmes, c'est 365 jours par an. Je veux dire, voilà, il n'y a pas d'autres questions à se poser, d'autres considérations. Et donc, petite parenthèse qui n'est pas amnistienne, mais qui est personnelle, mais qui va dans le même sens, pour les femmes, effectivement, ce sont des êtres humains, et tous les hommes sont portés au niveau de avant leur naissance par des femmes. Je veux dire, voilà, s'il n'y avait pas de femmes, on ne serait pas là. Donc, voilà. Et donc, pour Amnesty, effectivement, le combat pour les droits des femmes, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, on réclame effectivement une complète égalité. Dieu sait, comme disait Marine, qu'on en est encore loin. Il y a quelques avancées, il y a beaucoup de recul. Enfin, l'histoire n'avance jamais de façon unilatérale, hein. Les droits sont quand on obtient des avancées au niveau national ou international, il y a toujours des remises en cause et des reculs en arrière. À voir aux États-Unis le droit à l'avortement qui a été largement remis en cause récemment, et qui fait que maintenant il y a à peu près un tiers des États aux États-Unis qui n'acceptent plus le droit à l'avortement, alors que le droit à l'avortement, c'est tout simplement le droit pour la femme de disposer de son corps, ce qui pour les hommes paraît une évidence, qu'ils disposent de leur corps. Pourquoi est-ce que les femmes ne disposent pas du leur si on leur interdit de choisir une grossesse ou pas? Enfin, je veux dire, là encore, c'est quelque chose qui est, quand on réfléchit, ce sont vraiment des préjugés et des stéréotypes qui font que beaucoup d'hommes considèrent que les droits des femmes, c'est quelque chose qui est, secondaire, marginal ou pas si évident que ça. Alors qu'en fait, si, bien évidemment que c'est évident.
J'ai la sensation que c'est clairement ce qu'on appelle des rapports de domination. En fait, on peut l'évoquer sous différents angles, ces rapports de domination, mais j'ai la sensation qu'on est vraiment en deux mots, c'est clairement ça, parce que là, on aborde plusieurs questions autour du féminisme, autour du droit des femmes, mais finalement, j'ai l'impression que ça se résume presque en « c'est un rapport de domination ». Presque de manière de directe, en fait. Enfin, pas presque, de manière directe.
Complètement. Et même le visage aujourd'hui du féminisme intersectionnel, c'est grâce à la lutte antiraciste. Le féminisme ne ressemblerait pas à ça aujourd'hui. Évidemment qu'il était extrêmement classiste il y a encore quelques années, et l'est encore dans certains groupes. C'est quelque chose qui nous colle à la peau, parce qu'on peut être oppressé et oppresseur. Et ça a jamais... ça a toujours existé. Et le féminisme doit encore évoluer. C'est aussi pour ça qu'on invite toujours à ce que ce soit un collectif collectif ouvert qui se remet en question, qui discute avec d'autres personnes, parce qu'on n'a jamais fini d'évoluer. On dit nous-mêmes encore des grosses bêtises, et c'est comme ça, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça que ça évolue aussi.
J'ai envie de poser la question de manière un peu provocatrice, parce qu'on a eu l'occasion, Marine, de se croiser sur un atelier éducatif. Et moi, sur cette préparation, il y avait une question qui a émergé, qui a fait débat auprès des jeunes. Alors à la fin, ils ont ouvert leur réflexion de manière très très large et sont tombés assez d'accord sur le positionnement. Mais au démarrage, la question c'était, le féminisme c'est une histoire de femmes. Le féminisme c'est aux femmes de défendre leurs droits. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, mais non, c'est peut-être aussi une histoire d'hommes, ces questions-là. Comment finalement, quand on est homme ou femme d'ailleurs, hein, auditeur ou auditrice même, comment on peut se positionner sur ces questions de féminisme ?
Eh ben, effectivement, c'est une question qui est très complexe, parce que encore maintenant, elle est discutée dans les groupes féministes en permanence. Évidemment que les hommes sont concernés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avant tout une histoire de droits humains, donc évidemment qu'on est tous concernés sans exception. Et puis en fait, on se rend compte, comme tu disais, que les luttes de domination, ça concerne même jusqu'aux animaux, en fait, enfin, jusqu'aux autres animaux que nous sommes. Franchement, ça concerne tout le monde. Et donc, évidemment, que plus on est nombreux, mieux c'est. Mais après, effectivement, dans le combat féministe, mais comme dans tous les combats militants qui veulent se faire entendre, pour les minorités de genre, pour le racisme, c'est partout pareil. Le but, c'est quand même que ce soit les concernés qui prennent la parole. Et ça, c'est pas toujours facile. On se rend compte que quand on est dans un groupe mixte, c'est très compliqué de laisser la parole aux concernés. C'est encore quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire. Et donc, c'est un peu aussi pour ça qu'on va choisir parfois certaines séances en non-mixité ou ce genre de choses. Parce que le manque de représentation, le fait que les stéréotypes soient tellement ancrés en nous, que les temps de parole ne soient pas bien redistribués, et même certains traits de caractère, comme la timidité, qui sont plus ancrés chez certaines personnes que d'autres, tout ça mêlé par l'éducation. Hein. Mais tout ça, c'est tellement insidieux qu'aujourd'hui, dans la science, on a même du mal à définir complètement ce qui fait partie de nos comportements sociaux, de nos comportements biologiques. Donc évidemment que tout ça, c'est tellement complexe qu'on ne va pas résoudre ça autour d'une table. Mais en tout cas, on essaie. Et donc, il faut respecter aussi ces moments de non-mixité, tout comme ils doivent exister, évidemment, des moments en mixité.
Justement, la posture, ça fait partie des réflexions, des discussions qu'on a régulièrement avec Sceaux, parce que Sceaux est également militante. Hein, les auditeurs, ça ne vous aura pas échappé tout de même que Sceaux défend des choses quand même.
Ça commence à se voir un peu là.
Ouais, c'est on se le disait, ça commence à se voir.
Ouais, hein. Ça commence à se voir.
Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, le positionnement est pas évident pour les uns, pour les autres. À quel moment j'avais une phrase qui me revenait. C'est quoi ? C'est le Ah, ça y est, le chemin du bien est pavé de... Non, les bonnes intentions. Ah, ça y est, je l'ai plus. En tout cas, quand on pense faire bien, des fois, on fait pire que bien. Le positionnement n'est pas simple pour les uns et pour les autres.
Bien sûr, totalement. Et c'est vraiment le but de faire plusieurs séances, d'ailleurs, avec des demandes très précises, comme la mixité ou pas, mais aussi des temps de parole bien répartis, etc. Dans nous toutes, on a vraiment à cœur déjà d'être un collectif et pas une association, justement, pour qu'il n'y ait absolument aucune hiérarchie. Donc, c'est super important que celui qui soit arrivé la veille, il ait autant de paroles que celle qui est là depuis 3 mois. Après, à côté de ça, son positionnement, je pense que accepter de n'avoir rien à dire sur certains sujets et juste d'écouter l'autre, c'est déjà très difficile et c'est déjà très bien de l'apprendre.
Le fait de ne pas avoir d'avis, c'est compliqué, mais ça, on le voit sur toutes les thématiques de la vie. Comme si on était obligé d'avoir un avis, comme si on se sentait même légitime à avoir un avis des fois.
Oui, complètement.
Ouais, oui, puis parfois on peut avoir un avis, en fait c'est pas le moment de l'exprimer, c'est pas la place, et il faut être capable aussi de se dire non mais ce temps-là il n'est pas dédié à moi, et on verra s'il reste durable en termes de timing, mais je ne suis pas la priorité, et même ce que j'ai à dire est intéressant, c'est pas forcément l'espace-temps en fait. Donc voilà, c'est aussi de pouvoir s'organiser pour dispatcher la parole comme ça, c'est assez important en fait.
Didier, je sais pas si tu souhaitais ajouter quelque chose sur ces thématiques.
Il y aurait énormément à dire, donc voilà, bien évidemment. Oui, de toute façon, encore une fois, je disais tout à l'heure qu'il y a un gros travail à faire au niveau de, là je parle en tant qu'homme, un gros travail à faire entre nous les hommes par rapport à tous les préjugés par rapport aux femmes et à cette notion de domination des femmes, enfin, etc., qui sont si facilement portées par beaucoup d'hommes. Et bon, il y a effectivement tout un travail de remise en cause qui est fondamental. C'est pas toujours simple, hein, effectivement. C'est pour ça que Amnesty International fait aussi ce qu'on appelle l'éducation aux droits humains. Nous, on participe dans des collèges. Effectivement, on essaie de le faire autant qu'on peut pour vaincre tous les préjugés par rapport à tout ça, que ce soit en termes de droits des femmes ou sur d'autres sujets. Mais le terme de droits des femmes est fondamental. On a d'ailleurs fait une émission, c'était dans le cadre de Fréquence Droits Humains, au collège de Navarre. C'est pas si vieux, où on a fait parler des jeunes de 4e, 5e, enfin, etc., sur les droits des femmes. Et je me rappelle d'une question qui avait été posée tout à fait au début du débat, où il y avait un jeune qui disait « Mais pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes ?» C'était naïvement la bonne question à poser. Voilà. Pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes ? Et bien c'est effectivement sur tous ces plans-là qu'il faut continuer à agir pour que les choses avancent. Alors sachant, comme je le disais, qu'effectivement en ce moment, au niveau international et même national, on a le vent et les vents sont plutôt contraires par rapport à toutes les notions que nous on défend, et toutes les avancées que nous on défend, mais il ne faut surtout pas se démobiliser, bien au contraire.
Sur la journée du 8 mars, qui est la journée internationale du droit des femmes, on le disait, il y a une zone d'occupation féministe sur Évreux, entre la place de la mairie, la place du théâtre et devant le parvis de la médiathèque et de la maison des arts. Vous voyez, c'est centre culturel évreuxicien. Que va-t-il se passer en fait ? Qui va-t-on rencontrer ? Comment ça va se passer quand on va arriver sur cet endroit-là dimanche ?
Eh bien, sans trop en dire, parce que quand même, je pense que la surprise vaut le détour, parce qu'on tient quand même toute une journée entière de 10h à 16h. Donc évidemment qu'on vous attend nombreux et chaleureusement, avec, donc, comme je le disais, avec plein de copains et copines, avec plein d'associations, dont LGBT Cœur, Amnesty, Les Enfants de Tamar, etc. On a aussi des librairies qui se joignent à nous. Donc comme quoi, le contexte culturel est très important pour nous, évidemment. On va faire pas mal de lectures, mais il y aura aussi des stands d'animation, donc pour comprendre des choses et surtout pour échanger, parce que il y a peut-être des bases effectivement qu'on pourrait éventuellement transmettre, mais le but c'est quand même de faire fleurir un petit peu un moment très collectif de partage, d'échange de compétences, on va dire. Donc il y aura des stands comme des créations de pancartes par exemple, pour faire ressortir son côté un petit peu vindicatif. Et donc on espère en tout cas qu'on va avoir une journée pleine de rencontres. Il y a un repas aussi collectif qui est prévu sur le temps du midi. Et le but, c'est vraiment de faire voir qu'on est là, ce qu'on fait, ce qu'on revendique, et de rencontrer du monde qui, pourquoi pas, pourrait s'investir plus tard avec nous ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais pour les droits humains en général.
L'opportunité aussi de se poser des questions, de réfléchir, d'échanger, c'est peut-être ça le début aussi de comportement ou de changement de société, c'est commencer par se poser des questions.
Bah complètement. Et je pense que pour ça, il n'y a rien de mieux que de rencontrer quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que nous, qui n'a pas les mêmes expériences que nous, qui va nous ouvrir sur des connaissances qu'on n'a pas forcément. Franchement, c'est vraiment un lieu où justement on souhaitait ça. Du coup, même si ça reste quand même une journée dédiée aux droits des femmes, on souhaitait ouvrir ça aux droits évidemment humains, puisque c'est lié aux violences sur les enfants, évidemment, puisque c'est lié, etc. Et le but, c'est vraiment d'ouvrir comme ça sur tout ce qui est lié, parce que le but du féminisme intersectionnel, c'est ça, c'est qu'on se rende compte que c'est juste une grande toile d'araignée.
Dans les éléments qui m'ont marqué ces derniers temps sur ces questions-là, c'est ma district qui avait fait une vidéo sur Internet autour des programmations féminines dans les événements, dans les concerts, hein,